Merci de rester à l'écoute de RFI, il est 11h à Paris et 10h en temps universel. Le journal tout de suite avec vous, Charlotte Hydrac. Charlotte, bonjour.
Bonjour Caroline Paré, bonjour à toutes et à tous. Sur des kilomètres et des kilomètres des ruines, des destructions, la désolation, témoignage dans un instant d'une humanitaire à Gazaville, dans le nord du territoire palestinien, après plus d'un an de guerre avec Israël. Jean-Noël Barrot, invité de RFI et France 24 ce matin, le ministre français des Affaires étrangères, défend l'idée de 2 sièges permanents pour les pays africains au Conseil de sécurité de l'ONU. Il annonce un déplacement en Éthiopie d'ici la fin du mois. On ira aussi en Espagne 2 semaines après les inondations dans la région de Valence. Le déblaiement prend du temps. Et puis à chacun sa méthode pour se préparer à discuter avec Donald Trump en vue de son retour à la Maison-Blanche. En Corée du Sud, le président s'est remis au golf, la diplomatie du swing. De nouvelles frappes ce matin dans la banlieue sud de Beyrouth, la capitale libanaise. Et cela après un ordre d'évacuation de l'armée israélienne. Plusieurs zones considérées comme des fiefs du Hezbollah ont été visées. Sur le front de Gaza, c'est une vidéo devenue virale. Je vous le disais, des images de désolation. Louise Waterhidge, employée de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, a publié cette vidéo de la ville de Gaza, au nord du territoire, ou plutôt ce qui reste de la ville, maisons, hôpitaux, écoles, mosquées, tout a été anéanti. Elle le raconte à notre correspondant à Jérusalem, Sami Bourlifa.
Un document saisissant. Louise Waterhidge, employée de l'UNRWA, obtient la semaine dernière l'autorisation de l'armée israélienne d'entrer dans Gazaville. À bord de la voiture qui l'y conduit, elle décide de filmer ce qui l'entoure.
C'est un cimetière, il ne reste plus rien. Tous les immeubles sont complètement détruits. C'est absolument apocalyptique. Les bâtiments ne sont pas juste endommagés, mais ils sont totalement aplatis. Et aussi loin que se porte votre regard, dans toutes les directions, c'est le même paysage. J'ai publié une vidéo de 2 minutes, car certains réseaux sociaux n'autorisent pas des formats plus longs, mais la vidéo que j'ai tournée durant tout le trajet doit faire 15 ou 20 minutes et elle ne montre que des destructions à perte de vue.
Louise Waterhidge est également en contact avec un collègue et des civils assiégés tout au nord de la bande de Gaza par l'armée israélienne. Son offensive en cours contre cette région a pour objectif de la vider de ses habitants. Louise Waterhidge.
Les gens n'ont plus accès à la nourriture. Ils sont pris au piège. Ils sont au bord de la famine. Ils sont désespérés et nous disent ne pas comprendre comment le monde peut rester spectateurs d'une telle situation. Il y a des cadavres dans les rues.
Mi-octobre, l'administration américaine a lancé un ultimatum à Israël. 1 mois pour améliorer la situation humanitaire à Gaza. Dans le cas contraire, la Maison-Blanche arrête ses livraisons d'armes à l'État hébreu. Washington exige l'entrée de 350 camions d'aide humanitaire et de marchandises par jour à Gaza. Durant le mois d'octobre, les humanitaires ont comptabilisé une moyenne de 37 camions par jour pour l'ensemble des 2,3 millions Gazaouis. Sami Bourlifa, Jérusalem.
Dans ce contexte au Moyen-Orient, le ministre des Finances israélien Bezalel Smotrich viendra-t-il à Paris? Ce représentant de l'extrême droite israélienne, fervent partisan de la colonisation en Cisjordanie, il est invité à participer demain à un événement intitulé « Israël Forever » en soutien à l'État hébreu. Pas de confirmation de sa venue, c'est ce qu'indique le ministre français des Affaires étrangères. Jean-Noël Barrot, invité de RFI et France 24 ce matin, le chef de la diplomatie a par ailleurs plaidé pour une meilleure représentation du continent africain au Conseil de sécurité de l'ONU. Jean-Noël Barrot annonce un déplacement en Éthiopie d'ici la fin du mois.
D'ici la fin du mois, je me rendrai à Addis Abeba pour un échange entre la France et l'Union africaine qui sera l'occasion d'abord de réaffirmer l'ambition qui est celle de la France de réformer les institutions multilatérales et internationales, je pense en particulier au Conseil de sécurité de l'ONU, pour que l'Afrique puisse y être mieux représentée, oui, de manière à ce que ces institutions soient plus légitimes et que lorsqu'elles prennent des décisions, eh bien ces décisions puissent être entendues et appliquées.
L'Afrique mieux représentée, ça veut dire un poste au Conseil de sécurité, un poste permanent au Conseil de sécurité de l'ONU?
Ce que nous défendons, c'est l'idée d'avoir 2 sièges permanents, oui, pour les pays africains.
Jean-Noël Barrot, donc le ministre français des Affaires étrangères, avec Arnaud Pontus et Caroline de Camara, interview à retrouver sur RFI.fr. Place aux dirigeants à la COP29, la conférence climat en Azerbaïdjan. Même s'ils ne se bousculent pas, ces dirigeants à Bakou, quelques 75 chefs d'État et de gouvernement font le déplacement. Ni Joe Biden, ni Xi Jinping, ni Lula, ni Emmanuel Macron ne sont là. Malgré cela, les pays en développement ne peuvent pas repartir les mains vides. C'est ce qu'exige le chef de l'ONU. Le pays hôte a de son côté défendu le droit des États à exploiter leurs ressources pétrolières et gazières. Ce sont des cadeaux de Dieu, a martelé le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev. Nous serons des farouches défenseurs d'une transition verte, dit-il, mais nous devons dans le même temps être réalistes. Le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, est lui bien sur la liste des personnalités attendues à Bakou, son pays particulièrement frappé par les inondations meurtrières dans le sud-est, dans la région de Valence. Alors, tout juste 2 semaines après ces inondations, où est-ce qu'on en est? Est-ce que la vie a repris? Témoignage de Chaoumé Alarcon Ridaoura et sa compagne Anna Delia Militarou dans la localité de Benetusser.
On remarque les jours passants qu'avec les militaires, il n'y a pratiquement plus de voitures dans les rues. Et s'il y en a, elles ne dérangent pas. Il y a beaucoup moins de déchets, très peu de boue, mais même comme ça, on a toujours l'impression d'être dans un film. N'importe quel parking s'est transformé en casse auto. Toutes les voitures sont les unes sur les autres. Ce sont celles qui étaient éparpillées dans la rue ou dans un arbre. Maintenant, elles ont toutes été mises au même endroit. Pour l'instant, je pense qu'il manque encore beaucoup pour un retour à la normale. Très peu de magasins sont ouverts.
Ils dépendent encore beaucoup de ceux qui viennent de Valence. Il y a vraiment des communes comme Benetusser où les gens affectés vivent avec ce qu'on leur amène. Il n'y a pas de magasin pour s'acheter du pain ou encore du papier toilette et cela leur a enlevé leur autonomie. Et je pense que c'est pourtant très important pour revenir à la normale.
Et la plupart des gens n'ont pas de voiture, alors il y a beaucoup d'endroits où ils ne peuvent pas aller.
Des témoignages recueillis par Pauline Glaise. Les préparatifs des élections législatives anticipées en Allemagne, les sociaux-démocrates, les Verts et les conservateurs proposent la date du 23 février 2025 après la rupture de la coalition dirigée par Olaf Scholz. Le grand oral des poids lourds de la nouvelle Commission européenne ce mardi. Les 6 vice-présidents potentiels vont devoir convaincre les eurodéputés à Bruxelles. Ce matin, la nouvelle chef de la diplomatie européenne, l'estonienne Kaja Kallas, a plaidé pour un soutien de l'UE à l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. Le nouveau Premier ministre installé en Haïti hier, Alix Félix Fils-Aimé, investi donc hier soir, il s'est engagé à rétablir la sécurité dans ce pays où les gangs font la loi. Le chef du gouvernement a remplacé Gary Conil contre sa volonté après seulement 5 mois à ce poste. Le casting de la prochaine administration américaine en vue du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, selon le New York Times, Marco Rubio serait pressenti pour le poste de secrétaire d'État. Cette réélection de Donald Trump et les partenaires des États-Unis qui se préparent à discuter, à négocier avec le nouveau président, alors à chacun sa stratégie. En Corée du Sud, le président Yoon Suk-yeol, lui, a choisi de se perfectionner au golf, Silvio Foretti.
Rien de tel qu'un bon swing pour discuter. C'est en tout cas ce qu'espère le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, qui depuis le 5 novembre dernier s'entraîne au golf. Donald Trump, grand amateur de ce sport, y joue régulièrement et a l'habitude de rencontrer ses interlocuteurs autour d'un putter. Il vantait même son talent au golf lors d'un débat télévisé avec son adversaire Joe Biden. Alors, les équipes du président sud-coréen lui ont recommandé de s'entraîner, citant l'exemple de Shinzo Abe, ancien premier ministre japonais, qui aurait lié une amitié sincère avec Trump lors d'une partie de golf. Après 8 ans sans pratique, le fer est peut-être un peu rouillé, mais Yoon Suk-yeol espère être à même d'attirer les bonnes faveurs de Donald Trump. Les deux hommes se sont appelés peu après l'annonce des résultats de l'élection et ont convenu d'une rencontre dès que possible. Lors de son précédent mandat, Trump avait joué un rôle important dans les discussions intercoréennes, un rôle qu'il souhaite reprendre. L'avenir des relations entre Séoul et Washington se joue peut-être sur le green. C'est Le Fioretti, Séoul, RFI.
À Séoul, il est 19h10. On vous retrouve, Emmanuel Bastide, pour 8 milliards de voisins. À tout à l'heure.